Maintenant, ils confisquent tout, ils détruisent tout. En fait, aller dans une rave maintenant, c'est se mettre en danger son intégrité physique, mettre en danger son matériel, mettre en danger son véhicule, mettre tout, absolument tout en danger, c'est payer des amendes, etc. Et ça va vraiment pas dans le bon sens, c'est de pire en pire, c'est catastrophique, quoi. On est en train de perdre quelque chose, et moi j'ai peur qu'à terme, ils doivent proposer un texte de loi début avril, là, et moi j'ai peur qu'après ça, tout soit muselé, quoi. Enfin, ça me fait vraiment flipper. Ça a jamais été aussi pire, en fait.
C'est à croire que l'histoire est un éternel recommencement.
Ouais, je sais pas, mais moi, je vois difficilement comment sortir de cette espèce de charnier de répression absolue du truc où... ouais, il n'y a plus aucun dialogue avec les pouvoirs publics, en fait. Dans les années 90, ça a été un peu mis en place. Il y en a eu un peu plus dans les années 2000. Après, il n'y en a jamais eu assez, mais il y avait quand même eu des périodes où ça se mettait un peu plus en place et ça amenait quelque chose. Et là, on est revenu complètement au point mort du truc et c'est catastrophique parce que c'est que de la répression.
Est-ce que tu as déjà ressenti un décalage entre l'imaginaire tribe radical et la réalité plus pragmatique d'organiser des événements, de gérer un label et de travailler sur les structures locales?
Ben après, déjà, de toute façon, c'est pas la même époque. C'est super utopique, la philosophie de Spiral Tribe. Elle est super chouette, la philosophie, mais elle est super utopique. Et c'était vraiment une autre époque. Quand ils sont arrivés en France, ils avaient la liberté de faire des fêtes un peu partout. Tu vois, ça n'a plus rien à voir. Et puis, il y a aussi l'aspect que le milieu de la techno underground s'est beaucoup professionnalisé. Donc, c'est plus vraiment la même chose. On est un peu plus terre à terre maintenant, je dirais. Tu vois, je suis moins rêveur que quand j'avais 20 ans, quoi. Quand j'avais 20 ans, je voulais un camion, des machines et aller faire tous les technivals, quoi.
Moins rêveur, tu l'écris comment?
Là, je l'écrivais avec un E. Enfin, en fait, il y a toujours cette espèce de... J'aime bien me raccrocher à ce truc, mais c'est vrai que ça a changé. Et puis oui, on a un peu plus les pieds sur terre, je dirais.
Pour toi, qu'est-ce qui distingue vraiment la tribe des autres scènes techno? Est-ce que ce sont le son, les lieux, les valeurs, ou tout simplement la façon de faire communauté?
Bah déjà, c'est la musique. Il y a un truc dans cette musique. Après, moi, je vais. J'ai pas trop d'objectivité parce que c'est la musique qui me parle le plus, depuis 20 ans, qui m'a toujours inspiré, que j'adore, quoi. Il y a quelque chose dans ce type de techno que je ne retrouve nulle part ailleurs. Cette espèce de transe, c'est vraiment une transe. On va vraiment emmener l'auditeur dans une boucle et dans un truc très mental, très psychédélique, très introspectif, en fait. Mais en gardant le côté super énergique, c'est ça qui me fait... Ça me fait toujours kiffer, quoi. Et après, oui, alors c'est pareil. Quand on parle de l'époque d'avant, c'était toute une philosophie, quoi. C'était le... Enfin, la tribe, ça représentait même pas que la musique, le sound system, le partage. Ça appartient plus aux années 90 et 2000, je dirais.
Et là, on va venir à ton côté producteur d'aujourd'hui.
Oui.
On va pouvoir parler mobilette, parler machine.
Ouais.
Il ressemble à quoi ton setup live de ta production?
Moi, j'ai un setup hybride. Donc, le cerveau, c'est le laptop avec Ableton. Et j'ai 2-3 machines autour. J'aime bien, je me verrais pas refaire de la musique qu'avec un laptop et un contrôleur. Là, j'ai un gros synthé qui est un Virus TI pour les connaisseurs, qui donne vraiment de la vie au live. Enfin, je trouve qu'un vrai instrument donne beaucoup plus de vie et c'est 10 fois plus kiffant à jouer.
Et la fameuse Electribe dont on parlait tout à l'heure, elle a toujours un rôle dans ton univers?
Alors, j'ai deux grosses Electribe dont je me sers tous les jours dans mes productions, ouais, que je ne sors pas en live, mais je m'en sers tous les jours parce que c'est des super instruments pour donner des idées, pour tripoter, je me sers toujours des Electribe, ouais. C'est fou, mais je les aime d'amour.
Alors, tu me dis si je me trompe, mais je crois que tu as aussi utilisé du modulaire et du hardware dans tes tracks.
Pas de modulaire? Non. Donc oui, du hardware, oui, parce que j'ai plusieurs machines, mais dans le modulaire, j'ai pas encore passé le pas.
Bon, alors, comme tu as du hardware, comment est-ce que tu répartis le travail entre machine physique et environnement informatique?
On va dire que les machines, ça va plus être les leads, tout ce qui est leads et bass, parce qu'en fait, ça a beaucoup plus de présence. Alors, bien que oui, maintenant, avec les synthétiseurs virtuels modernes, ils ont vraiment un son qui est mortel, quoi. Mais moi, je trouve encore de l'intérêt et je trouve quand même que le son de mes bécanes, sort mieux et plus chaud et plus rond et plus agressif que des sons de plugin quoi.
Pour vous qui venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes à l'écoute de DJ Academy Le Mag. L'invité de la semaine, c'est Grey Okuma, interviewé le 14 mars 2026 à Châteauroux dans le cadre de la soirée Underground Techno 5 organisée par l'association La Lichounerie. Et là, on va se faire une nouvelle coupure musicale avec Grey Okuma. Le morceau s'appelle Pump My Ride. La suite de l'interview de Gréo Kouma, c'est dès maintenant.
DJ Academy, le mag, l'interview.
Quand on peut écouter l'ensemble de tes productions, que ce soit sur SoundCloud oui. ou même sur Deezer,
oui.
tu as une certaine patte, tu as ta signature. Et je serais assez curieux de savoir, quand tu es en studio, si tu as une routine. Est-ce que tes morceaux, ça part d'une rythmique? Est-ce que ça part d'une texture mentale? Est-ce que ça part d'un hook de synthé?
Ça peut partir de tout ce que tu viens de dire. Ça dépend, c'est jamais pareil.
Ça sort comme ça vient?
Ouais, ben en fait, des fois ça va être une ambiance, des fois ça va être une mélodie, des fois ça va être un groove rythmique. Ça part jamais de la même façon, puis c'est ça qui est cool.
Particularité également de tes productions, c'est leur longueur. Ouais. Je crois que depuis la musique classique, dans le monde de la musique, c'est assez rare. Tes morceaux, ils peuvent atteindre 20 à 30 minutes. Ouais. Ça, c'est pas le truc le plus rentable pour les plateformes.
Oui.
Ta musique, elle renferme aussi un côté très minimal et psychédélique. Qu'est-ce que raconte cette durée pour toi ?
Eh ben, c'est tout l'intérêt de la techno pour moi. C'est de prendre le temps pour le narratif. Parce que le narratif, pour moi, c'est vrai. Le storytelling, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi dans la techno, surtout dans le son tribe. Et j'ai pas envie de castrer ma musique pour les plateformes. Alors après, évidemment, la plupart de mes productions sont plus courtes parce qu'en fait, c'est des tools de DJ aussi, tu vois, ça va être mixé par des DJ. Mais les morceaux dont tu parles, c'est plus des live extracts. Mais c'est pour moi le... Bah, c'est comme le live, tu vois, c'est la meilleure façon de faire de la techno, en fait. C'est développer des ambiances, narrer pendant 20 minutes, une atmosphère, un paysage sonore, c'est vraiment le... Pour moi, c'est ce qui a le plus de sens, voilà. Et c'est complètement à l'opposé de ce qui est plus à la mode, plus dans le mainstream maintenant, où tout va très vite. C'est des morceaux de 3 minutes avec 2 drops. C'est vraiment à l'opposé total de ça.
Et dans cette manière de construire ces morceaux sur la longueur, bah ça me rappelle des disques de rock progressif des années 70. Ça peut rappeler également Jean-Michel Jarre. Et vous partagez justement en commun ce goût du psychédélisme.
Mais en fait, donc moi je suis un passionné de rock prog et de rock psychédélique, de rock hippie, des groupes californiens comme Jefferson Airplane, ou même les Doors ou tous ces groupes-là et plein d'autres groupes. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est les mêmes structures. C'est des structures de basse et de rythmique tournoyantes qui font un espèce de support et où on va venir modeler un paysage dessus. C'est super proche, on n'a rien inventé en fait. Mais il y a la même essence, je trouve.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui tu fais du rock avec des machines finalement ?
Ah, j'aurais pas cette prétention, mais dans l'idée, ouais, c'est quand même super similaire. Il y a quand même pas mal de points communs, je trouve.
Question que je me suis posée en préparant l'interview, en écoutant tes morceaux en arrière-fond, c'est comment est-ce que tu arrives à gérer l'attention et le relâchement sur un morceau aussi long sans perdre le danseur en route?
Et bien justement, c'est toute la difficulté sur certains morceaux. Alors c'est surtout les morceaux harmoniques, les morceaux où il y a des harmonies, des accords et des progressions d'accords. Il y en a un que j'ai fait qui dure 20-25 minutes. J'ai passé 2 ans dessus. 2 ans, c'est super long, hein, pour 20 minutes, quoi. Pour justement le fait, je reste dans la même gamme tout le long du morceau. Et il faut que l'auditeur ne s'ennuie jamais. Et en fait, c'est là toute la difficulté et c'est super fatigant. C'est pour ça que ces morceaux-là, j'en fais un tous les 10 ans, parce que c'est compliqué, mais je tiens à le faire quand même parce que j'adore faire des choses parfois un peu mélodieuses. J'adore faire de la tribe sombre, mais j'adore faire des trucs mélodieux qui font du bien à jouer sur des dance floors le matin. Je trouve que ça a vraiment du sens et puis j'aime ça. Mais c'est énormément de boulot. C'est à s'arracher les cheveux, ce genre de morceaux. Ouais. C'est compliqué.
Chez les disquaires, on peut retrouver tes disques au rayon dit Artek.
Artek Tribe, ouais.
Pourtant, ta musique, elle n'est pas si hard. Moi, j'aurais tendance à la voir plutôt minimaliste.
Ouais.
Et je me demandais si le minimalisme chez toi, c'était une contrainte que tu t'imposes, ou si c'est une manière d'aller à l'essentiel et de laisser, comme quelque part, laisser place à l'imagination de l'auditeur.
Bah exactement, et puis ça, c'est faire respirer les sons. Et tout à l'heure, je te parlais de suggestions. Justement, c'est dans le minimalisme qu'on suggère et qu'on art le mieux, je trouve. Après, il y a des artistes qui vont plus être dans le maximal. Mais, et puis c'est comme ça qu'on amène une ambiance. C'est ça qui fait le psychédélisme, en fait, le minimalisme, je trouve. La musique progressive, amener chaque petit élément un par un. C'est ma façon de faire de la musique. J'ai toujours fait comme ça.
On en parlait un petit peu hors antenne avant de lancer l'enregistrement. c'est qu'aujourd'hui dans la hard music, on trouve d'énormes scènes, on a des DJs tarifiés qui pour moi sont très proches de l'EDM. Quel regard portes-tu justement sur cette scène hard music qui aujourd'hui est très dans la starification?
Bah en fait, ça, je trouve que ça a complètement remplacé l'EDM. En fait, c'est l'EDM de 2026, c'est bah, la scène art techno. C'est le même méthode de fonctionnement. C'est oui, on est dans la starification. Moi, je regarde ça d'un œil un peu... des fois, ça me rend un peu triste, en fait. Parce qu'en fait, la musique devient secondaire. C'est vraiment l'impression que j'ai. La musique devient accessoire. Alors peut-être, je devrais... J'ai plein de potes qui me disent, mais tu t'en fous, en fait. On fait de la bonne musique. Enfin, non, on fait de la bonne musique. On fait de la musique faite avec le cœur entre nous. Tu t'en fous de tout ça, quoi. Et c'est vrai que moi, il y a un petit truc qui m'emmerde. Dans ce truc que la musique est au second plan. On vend beaucoup d'images, on vend beaucoup de choses comme ça. Et ouais, je trouve ça dessert la techno. Voilà.
Ouais. La figure du DJ Star, elle est très loin de l'anonymat des sound systems des années 90. Est-ce que toi, tu y vois une sorte de trahison de l'esprit originel ou juste une autre branche de la même histoire?
Non, moi j'y vois c'est le capital en fait. Le capital il ronge tout et en fait à un moment donné il est arrivé sur la techno et c'est ce qu'on voit maintenant avec des groupes d'investissement qui sont promoteurs des soirées. Enfin tu vois, c'est plus du tout le même délire. On est très loin de l'underground quoi. Donc et le plus important pour moi c'est que l'underground est toujours super bien, super présent. Ça se bouge, il y a plein d'assos. Moi partout où je vais jouer en France, franchement il y a plein de petites assos comme ce soir, qui se bougent le cul, qui sont passionnés, qui font des belles petites soirées. En fait le plus important pour moi c'est ça quoi.
Nouvelle coupure musicale avec Gréo Kouma, le morceau s'appelle Pump My Ride.
L'interview.
Toi, est-ce que tu te verrais personnellement sur une énorme main stage? Ou est-ce que tu préfères rester à une certaine échelle à quelque chose de plus taille humaine, un petit peu comme la soirée ce soir?
Moi, je me verrais pas du tout sur des énormes stages avec 10 000 personnes dans la salle. Non, moi, on en revient à ce que je te disais avant, l'underground. Je préfère les petites scènes comme ça, en fait, quoi. Et même les festivals, j'adore les petits festivals, quoi. J'adore le côté intimiste, en fait.
On a parlé du côté minimalisme et psychédélique de ta musique. Maintenant, en termes d'émotion, quelles sont les émotions que tu aimes provoquer chez les gens quand tu joues? De la rage, de la transe, de la douceur ou quelque chose de cathartique? Un mélange de tout ça?
Ouais, je pense que c'est un gros mélange de tout ça. Ouais, ça dépend des morceaux, mais les morceaux plus mélodieux, c'est de la douceur. Mais sinon, non, c'est proposer un voyage, quoi, une transe, un truc intense, puissant. C'est essayer de les choper et de plus les lâcher, en fait.
Alors, j'ai jamais fait de live. Quand je joue en DJ set, je regardais un petit peu les yeux du public et pour m'adapter à eux. Toi, quand t'es en live, quand tu joues des longs lives psychédéliques et mentaux, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois des corps en transe? Est-ce que tu vois des regards perdus, des sourires ou de la connexion entre inconnus?
De tout ce que tu viens de dire, tu vois tout, en fait. Vraiment. Ça, les gens tripent à leur façon, mais alors c'est l'expérience, de toute façon, où l'expérience est la mieux, c'est dans une rave. Quand tu joues devant le mur, moi je joue toujours au matin, je fais pas du tout de la musique de nuit. Et c'est là que la magie opère, en fait, où tu vois des sourires, des gens qui sont à fond, des gens qui dansent mais qui sont plus en légèreté, d'autres qui sont plus dedans. Donc c'est un peu tout ça, je pense que c'est un gros melting pot de tout ce que tu as énuméré là.
Et puis le lever de soleil, c'est sympa?
Ouais, j'adore ça, c'est mon art.
Quand tu joues en live, est-ce que tu dirais que tu adaptes tes sets en fonction du lieu? Que ce soit en free party, en club, en festival ou en bar alternatif? Ou est-ce que tu penses que ton identité sonore, elle reste la même partout?
Je joue le même live, mais je vais pas jouer de la même façon dans une rave au matin que de la nuit en club. C'est pour ça que je te disais que la meilleure des expériences, c'est en rave, parce qu'en rave, tu peux vraiment installer une ambiance et aller creuser, aller chercher beaucoup plus loin. Faut que ça aille un peu, enfin, c'est la sensation que j'ai toujours eue. En tout cas, la nuit, faut que ça aille un peu plus vite et plus accentuer le côté dance floor. Je vais peut-être pas toujours le jouer de la même façon.
Et tes meilleurs souvenirs de live, ce serait quand?
Ah, j'en ai quelques-uns, mais c'était... Je crois que la rave la plus incroyable que j'ai faite, c'était une rave qui s'appelait la Big Brother. C'était dans les Alpes du Sud, où il y avait tout, en fait. Il y avait tout pour que ce soit parfait. Il y avait une sono magnifique, une déco magnifique, une organisation et un accueil impeccable. Et j'ai joué au lever du soleil, un peu brumeux. Et là, j'ai eu des sensations vraiment... c'était fou, quoi. C'était vraiment fou, je crois que c'est mon meilleur souvenir. Et j'en ai pas mal d'autres comme ça, mais c'est vrai que je crois que les expériences les plus intenses, c'était dans des raves, quoi. Ou sur des beaux gros festivals comme la DRA ou le Son Libre aussi, c'était quand même vachement cool. Mais la sensation est pas la même quand t'es sur scène que quand t'es en rave devant la façade, quoi.
Aujourd'hui, en 2026, quels seraient les territoires les plus réceptifs à ta musique?
Le Sud. Non, je dis le Sud parce que j'ai l'impression que c'est un des derniers bastions de la free party.
Alors, le sud de la France ou le sud, le Maghreb?
Le sud de la France. Mais après, chez nous, dans l'Est, la tribe, il y a quand même pas mal d'endroits où il y a du public, quoi. Hein. En Italie, le Grand Est de la France, dans le Nord-Ouest, j'ai l'impression un peu moins. Mais, et encore, non, parce que je parlais avec un artiste qui est en train d'exploser, qui s'appelle Cellulaire. Qui m'a dit non, moi je suis en Belgique, la tribe ça explose, quoi. Et moi j'ai la sensation d'un retour un peu au son tribe sur le devant de la scène underground. On va voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression d'un petit retour aux sonorités tribe d'antan et ça fait plaisir, quoi.
On va revenir sur des questions un peu plus sociétales. Tout à l'heure tu parlais de ce projet de loi contre l'organisation, ouais, des raves. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'avec le temps, on est passé d'une techno diabolisée et criminalisée à une culture qui entre dans les musées, et au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Toi, comment est-ce que tu vis ce grand écart ?
Le jour et la nuit.
Parce que c'est vrai que c'est quand même assez fou.
Ouais, c'est,